Et au menu de notre club cet après-midi, des recettes pour changer le climat. Une blatte qui réécrit l'histoire de la Nouvelle-Calédonie et de la philosophie pour guérir la vie. Je vous présente mes invités dans un instant. Agnès Fèvre, bonjour.
Bonjour Mathieu.
À la une de la science aujourd'hui, un matériau nobelisé qui pourrait servir à dessaler les océans.
Oui, transformer l'eau de mer en eau potable, c'est un défi important face à la diminution des ressources en eau douce sur la planète. Et le graphène, ce feuillet de carbone de la taille d'un atome, pourrait être bien utile. Les explications du chimiste Philippe Poulain.
Et c'est Clément Baudet qui réalise ce club des Têtes au Carré qui a été préparé aujourd'hui par Thomas Lehété.
La Tête au Carré, le club avec Mathieu Vidard sur France Inter.
Philosophie, blatte calédonienne et climat donc dans le club dans un instant. Et je salue mes invités Laurence De Villers, Aline Richard, Romain Garouste, Jean-Luc Fessard et Yves Lerce. Bonjour à tous les cinq.
Bonjour.
Soyez les bienvenus. Jean-Luc Fessard et Yves Lerce, vous publiez aux éditions Buchet-Chastel un livre de recettes pour sauver le climat. On peut vraiment lutter contre le réchauffement en cuisinant autrement, Yves Lerce?
Un livre de recettes, c'est pas tout à fait un livre de recettes. C'est d'abord...
Il y en a quand même. Hein.
Il y en a quand même, heureusement, ouais. À la fin, justement. Mais on commence d'abord par expliquer pourquoi l'alimentation représente 30% de notre impact carbone et que c'est un sujet qui est très largement ignoré parce qu'en général, on parle du bâtiment, on parle des transports, on parle très peu de notre assiette, justement.
C'est ça.
Or, c'est énorme. Et c'est peut-être dans ce domaine-là que c'est le plus facile d'agir.
Voilà, et nous expliquer, c'est déjà nous donner des clés et une façon voilà, de vivre autrement.
Voilà. En fait, dans ce que vient de dire Yves, le transport... Le bâtiment, c'est un peu compliqué d'agir dessus parce que souvent, il faut de l'argent pour pouvoir isoler, pour pouvoir changer ça et tout ça. Alors que l'alimentation, c'est extrêmement simple.
Absolument.
Vous décidez de prendre des plats dorénavant à base de produits d'origine locale, surtout qui respectent la saison, et vous privilégiez le végétal. Et là, vous avez un impact évident sur le climat.
Et vous nous donnez une petite carte justement des fruits de saison pour nous aider à nous guider. Les lasagnes d'aubergine et de poulet seraient par exemple un bon bilan carbone. On en parlera avec vous dans quelques minutes. Romain Garouste, vous signez pour le site The Conversation France un article sur une blatte qui réécrit l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. La découverte de cet insecte a été lourde de conséquences apparemment.
Alors oui, c'est une manière pour nous de montrer que la taxonomie, la systématique ont des conséquences très importantes dans les autres sciences et effectivement de montrer que ce sont pas simplement des voies de recherche académiques, mais également des choses qui sont vraiment tout à fait implantées dans les considérations dont on a besoin aujourd'hui pour comprendre la biodiversité, gérer nos écosystèmes.
Eh bien, vous nous racontez l'histoire de cette blatte qui a retenu l'attention de The Conversation, Alain Richard. Hein, on s'en fera l'écho tout à l'heure. Et puis, Laurence De Villers, vous publiez Guérir la vie par la philosophie. C'est aux presses universitaires de France. La philo, quoi? Ça peut être un remède, voire une médecine pour rendre plus fort?
C'est une médecine. Mmh. C'est une médecine. C'est une des premières définitions que la philosophie ait donnée d'elle-même. Donc c'est pas un sujet qui est uniquement dans l'air du temps. C'est une des sources à la naissance de la philosophie.
Et on peut guérir beaucoup de
choses.
Pour
rendre plus fort, on verra.
Ouais.
C'est pas si simple, je crois.
On en parlera avec vous dans quelques instants. Ouvrage qui paraît aux presses universitaires de France. Et on se retrouve avec les auditeurs pour évoquer l'ensemble de ces sujets sur le site de l'émission franceinter.fr et les réseaux avec le mot-clé l'attaque. Et à la une de la science aujourd'hui, l'invention d'un tamis pour dessaler l'eau de mer, élaboré à base de graphène, un matériau qui a reçu la plus haute distinction en 2010.
L'Académie royale des sciences de Suède a décidé d'attribuer le prix Nobel 2010 de physique aux professeurs André Geim et Konstantin Novoselov de l'Université de Manchester, pour leurs expériences révolutionnaires sur un matériau bidimensionnel, le graphène.
Voilà, prix Nobel donc en octobre 2010 avec ce matériau le plus mince au monde, aussi fin qu'un atome et ultra résistant. Et aujourd'hui, une équipe de scientifiques de l'université de Manchester vient de mettre au point un tamis à base de graphène pour filtrer l'eau de mer et la transformer en eau potable. Une découverte importante publiée dans la revue Nature Nanotechnology. Et vous êtes avec nous, Philippe Poulain, pour en parler. Bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes directeur de recherche au CNRS et vous travaillez au centre de recherche Paul Pascal, c'est à Bordeaux. Alors racontez-nous, quelle est cette technologie mise au point exactement par les chercheurs de Manchester?
Oui, alors ces chercheurs ont en effet réalisé un progrès très intéressant dans l'utilisation du graphène pour faire des membranes qui servent à purifier l'eau, à la filtrer, à enlever le sel. Mmh. Alors le principe est relativement simple, enfin du moins de façon schématique. Donc, comme vous l'avez indiqué, le graphène, ce sont des feuillets d'atomes de carbone, des objets bidimensionnels. Dans ce qu'ont réalisé les chercheurs de l'Université de Manchester, ils les ont empilés pour faire une membrane, comme vous pouvez imaginer une pile de feuilles, par exemple. Mmh. Et l'eau est amenée à circuler entre ces feuillets et dans un espace qui est très très mince. Donc les molécules d'eau peuvent circuler, mais les ions, eux, qui ont une taille supérieure, ne peuvent pas passer. Et c'est ainsi que l'eau peut être purifiée.
Et c'était pas la première fois qu'on cherchait à utiliser le graphène pour dessaler l'eau de mer, mais pourquoi là, cette membrane est-elle plus efficace que les fois précédentes?
Oui, en effet, l'idée n'est pas nouvelle. Il y a déjà eu de nombreuses tentatives, des résultats prometteurs. Mais ces membranes, jusqu'à présent, avaient différentes limitations, de la difficulté de la fabrication, le coût important. Et certaines aussi avaient un défaut important qui est celui de... En fait, elles gonflent en présence d'eau. Et donc, l'espace entre les feuillets s'agrandit, ce qui fait que l'efficacité de filtration devient beaucoup moins importante. Et l'idée qu'ont eue les chercheurs britanniques est tout simplement, et très simple, est d'utiliser une colle qui maintient le feuillet, si vous voulez, de façon... plus rigide et qui l'empêche de gonfler en présence d'eau, et ainsi la membrane peut rester efficace pour la filtration des ions.
Donc ça permet de mieux contrôler la taille des pores.
Exactement, et de la garder cette constante colle, même en présence d'eau. Oui.
Donc c'est vraiment un filtrage à la manière d'une passoire, hein, si on vous comprend bien.
Oui, oui, exactement. C'est bon. Alors après, il y a quelques subtilités parce qu'il faut pour enlever les ions, ils sont recouverts d'eau qui est fixée, de molécules d'eau qui sont fixées, donc il faut que ces molécules si vous voulez, soit retiré pour que les ions puissent passer ou pas. Mais sinon, oui, le principe est tout à fait celui d'une passoire. Oui, c'est exactement ça.
Et pour que l'eau de mer devienne potable, c'est aussi simple que ça. Il suffit juste d'enlever le sel.
Oui, c'est ça, avoir un bon tamis et puis hop.
Voilà, mais ça, faut voir que les ions sont extrêmement petits. Donc, il faut des pores très très petits pour de l'ordre de quelques angstroms. Donc c'est très difficile à réaliser quand même, c'est 100 000 fois plus petit qu'un cheveu, donc il faut une membrane avec des pores de cette taille-là. Il faut pour faire passer l'eau à travers des pores si petits, des pressions très très importantes, donc il faut des pompes très puissantes. C'est quand même si expliqué c'est très simple, c'est quand même à réaliser sur un plan technologique, c'est quand même quelque chose d'assez compliqué, quoi.
Mmh. Philippe Poulain, 14% de la population mondiale pourrait être touchée par une pénurie d'eau d'ici à 2025, hein, d'après l'ONU. Est-ce que cette découverte est vraiment prometteuse? Et puis on en est où?
Alors non, enfin, oui, elle est prometteuse, si vous voulez, sur un plan purement scientifique.
Vous avez dit non d'abord, hein, quand même, hein, on vous a entendu, hein, attention.
Je vais être honnête, il y a des limitations, il y a encore beaucoup d'étapes, on est encore très loin de la validation de l'application. Faut savoir qu'aujourd'hui, il existe des membranes en polymère, en plastique, entre guillemets, qui existent et qui fonctionnent. Alors qu'aujourd'hui, ces membranes-là ne sont validées qu'à l'échelle de laboratoire et encore dans des conditions qui ne sont pas vraiment représentatives d'une véritable utilisation industrielle. Mmh. Donc on est encore très loin de l'utilisation. Mais bon, c'est en améliorant ces membranes, justement, qu'on va développer des technologies qui vont consommer moins d'énergie, qui seront plus efficaces. Et donc c'est une recherche qui est vraiment intéressante et utile.
Bon, il y a une piste, en tout cas très intéressante, hein, effectivement. On sent la promesse, mais la complexité technologique encore, hein, qui reste à améliorer. Agnès, hein.
Oui, on a vu le nombre de brevets bondir, hein, ces dernières années, des brevets impliquant justement le graphène. Quelles sont les propriétés de ce matériau qui le rendent si intéressant?
Alors, vous l'avez aussi indiqué, c'est un matériau qui, déjà, sur un plan mécanique, est très résistant. C'est un des matériaux les plus résistants sur Terre. C'est aussi un matériau qui est conducteur d'électricité. Et d'ailleurs, c'est une des principales raisons pour lesquelles il a été, il y a eu un prix Nobel associé à sa découverte. Mm-hmm. C'est un matériau dont l'utilisation était d'abord envisagée dans l'électronique. Et on voit qu'aujourd'hui, il y a des recherches qui sont étendues à beaucoup d'autres domaines. Vous voyez, la filtration de l'eau, mais il y en a aussi en médecine, dans les composites pour l'automobile, les transports. Enfin, il y a beaucoup d'utilisations qui sont envisagées pour ce matériau.
Voilà, donc beaucoup de recherches, hein, autour de ce matériau dont tout le monde a envie de s'emparer, effectivement. Et puis, on va attendre avant de voir les applications possibles à la suite de cette publication donc, qui paraît pour le filtrage de l'eau de mer. Merci pour vos explications, Philippe Poulain. Vous êtes directeur de recherche et vous travaillez donc au Centre de recherche Paul Pascal de Bordeaux. Merci à vous et bon week-end.
Merci.
Et puis Agnès, à très bientôt.
À bientôt.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, pour la première fois, une atmosphère a été observée sur une exoplanète semblable à la Terre et elle abrite de l'eau. Le problème, c'est que cette planète est très proche de son étoile. L'eau y est constamment chauffée à plus de 300 degrés. D'après les chercheurs qui ont fait la découverte, ce serait donc un frein à l'apparition de la vie. Située à 39 années-lumière, cette planète est un peu plus massive et un peu plus grande que notre Terre. Elle gravite autour d'une naine rouge. On pourrait donc en apprendre davantage sur les systèmes qui se forment autour de ces étoiles. Si les humains ne sont pas devenus cannibales, c'est que ce régime n'était pas assez calorique. C'est ce que suggère une étude britannique. Selon les chercheurs, un corps d'homme contient presque 126 000 calories. De quoi satisfaire les besoins journaliers de 60 personnes. C'est beaucoup, mais toujours moins qu'un mammouth avec ses 3 600 000 calories. En termes de rentabilité, il était donc plus intéressant de chasser une proie moins dangereuse et plus nutritive. Pour autant, des traces de cannibalisme datant de différentes périodes ont été retrouvées. Selon cette étude, cela peut s'expliquer par un manque extrême de nourriture ou bien par une façon de consacrer sa victoire sur un ennemi. Et puis l'inventeur du web, Tim Berners-Lee, vient de recevoir le prix Alan Turing. Il récompense les personnes ayant apporté une contribution majeure dans le domaine de l'informatique. Et c'est bien de ça dont il est question, une distinction qui arrive 30 ans après la création du web. À l'époque, Tim Berners-Lee travaillait au CERN et cherchait un moyen de partager des fichiers entre différents ordinateurs. C'est ainsi que naît le tout premier site web. Tim Berners-Lee s'est aussi illustré par sa prise de position en faveur des logiciels libres et de la neutralité du net. Le prix Alan Turing, nommé d'après le célèbre mathématicien, est l'équivalent du prix Nobel pour le domaine informatique. Et c'est le club dans un instant. Black, Amy Winehouse à l'instant.
Le club carré sur France Inter.
Et dans notre club cet après-midi, des recettes pour sauver le climat, une blatte qui réécrit l'histoire de la Nouvelle-Calédonie et de la philosophie pour guérir la vie. Et vous nous rejoignez avec vos messages, toutes vos questions sur franceinter.fr. On va commencer avec donc une histoire d'insectes a priori sans importance et qui pourtant a délivré des informations très précieuses, en l'occurrence sur la Nouvelle-Calédonie. Cet insecte, c'est une blatte. Vous avez même montré sa photo à l'ensemble de nos invités, Aline Richard.
Qui ont été enchantés.
Mais oui, c'est très beau. À quoi elle ressemble alors, cette blatte de la forêt calédonienne?
Elle est assez grosse, une espèce de carapace mordorée, et des petites pattes poilues absolument craquantes.
Romain Garros, ça fait combien de centimètres?
Elle fait moins d'un centimètre, en fait. Mais ce qui est relativement gros pour un insecte. Hein, voilà. Bon, la plupart des insectes font quelques millimètres.
Hein. Et on la croise en forêt?
On la croise en forêt.
Ouais.
En France? Pardon.
En Nouvelle-Calédonie,
c'est une espèce endémique. C'est une espèce endémique de Nouvelle-Calédonie, et c'est justement le propos, justement d'étudier ces espèces endémiques pour comprendre l'origine de leur biodiversité.
Ouais. Enfin, ça va mieux, Laurence de Villiers. Vous avez des blattes en France aussi, hein. Vous avez donc attention, vous mettez les pieds. C'est pas dangereux les blattes a priori.
Absolument pas.
Ouais.
Vous êtes tombé dessus par hasard?
Non, elles ont été recherchées spécifiquement pour en étudier justement
pour leur qualité
gustative, non, pour leur qualité, on va dire, pour les informations qu'elles pouvaient apporter sur la biodiversité.
Vous avez déjà croisé des mangeurs de blattes, vous, Yves Lers, ou pas?
J'ai croisé des blattes dans des pays d'autre côté de la Méditerranée pendant pas mal d'années, effectivement.
Enfin, manger des insectes,
mais j'ai jamais mangé.
C'est intéressant pour les protéines, dans tous les cas.
Manger, c'est des tout ce qui est peut-être à l'origine de la manne en Égypte, ce qui a été mangé pendant longtemps, puis après les pesticides, insecticides ont été tellement forts que ça n'était plus à peine.
Alors Aline Richard, cette blatte, donc, elle a intéressé la rédaction de The Conversation France.
Oui, nous sommes très fans d'insectes à The Conversation France, comme Romain le sait. Alors plus sérieusement, notre site, qui est un site collaboratif de partage des savoirs, s'intéresse depuis son début à la biodiversité, et on s'est dit, avec les chercheurs du muséum, Philippe Grandcola, qui a écrit l'article sur la blatte de Nouvelle-Calédonie, et Romain Garoust, qui fait partie de son unité de recherche, on s'est dit, entre le muséum et The Conversation, il faut faire des choses, et on a créé une chronique scientifique qui s'appelle En direct des espèces, en direct, chronique scientifique de la biodiversité. Et donc, on aura régulièrement des articles signés de nos chercheurs du muséum, accueillis dans The Conversation. Et ça nous paraît tout à fait important parce que toutes les sciences qui sont autour de la biodiversité, il n'y a pas que la biologie, il y a des tas de choses tout à fait passionnantes. Il nous semble qu'il faut les vulgariser et les apporter au grand public.
Alors, Romain Garros, justement, la Nouvelle-Calédonie, c'est un hotspot de la biodiversité dans le monde?
Ah oui, tout à fait. C'est un des plus importants hotspots, c'est-à-dire que c'est un territoire où vraiment l'endémisme est un des plus importants au monde, c'est-à-dire qu'il y a plus de la moitié des espèces
qu'on ne trouve que là-bas,
que l'on ne trouve que sur ce territoire.
Ouais.
Donc, si vous voulez, il y a vraiment un enjeu mondial pour comprendre et conserver la biodiversité en Nouvelle-Calédonie.
Et donc, on y découvre encore de nouvelles espèces très souvent?
Et donc, on n'a pas encore terminé l'inventaire de cette biodiversité, même si on est dans une situation insulaire. C'est quand même une île qui fait 500 km de long, entre 50 et 100 km de large. Donc c'est quand même un grand espace, extrêmement montagneux et escarpé. Et il y a vraiment encore beaucoup de choses à connaître sur cette île et beaucoup d'informations scientifiques à en tirer.
Aline Richard.
Ce qui est passionnant dans l'article sur la blatte de Nouvelle-Calédonie, c'est qu'en fait, ça désingue les idées reçues de la science. C'est ça qui est,
ils ne se sont pas allés avec le dos de la cuillère.
C'est ça qui est bien. Ouais. Parce que, en fait, les scientifiques pensaient que la Nouvelle-Calédonie, enfin, c'est très romantique comme idée, c'était en fait un bout d'un continent archaïque qui s'appelle le Gondwana, qui a commencé à se défaire il y a 80 millions d'années. Et en fait, on pensait donc que la biodiversité de Nouvelle-Calédonie, en fait, elle était aussi ancienne. Et c'est en trouvant cette petite bestiole, cette blatte, qu'on s'est aperçu qu'en fait, en faisant des choses que les scientifiques adorent faire, qui sont des arbres phylogénétiques, je m'aventurerai pas là-dedans, ils sont aperçus qu'en fait la bestiole était beaucoup plus récente et que donc la belle histoire finalement du Gondwana, bah c'était pas du tout une belle histoire et c'était pas vrai.
Alors Romain Garouz, comment vous avez mis d'abord la main sur cette blatte de la forêt? Ça fait longtemps qu'on la connaît ou pas?
Oui, ça fait une quinzaine d'années qu'elle a été décrite, en fin de compte. Mais ce qui était important, c'est qu'elle a permis d'ouvrir une nouvelle porte dans ce type de recherche et de démontrer exactement ce qu'Aline a expliqué. C'est qu'en fait, cela mettait complètement en question le modèle qui avait été décrit, expliqué.
Donc, modèle géologique,
dont dépendait effectivement l'histoire géologique. Donc, tout simplement, on s'est posé la question pourquoi ces blattes, dont le genre Angustonicus, effectivement, étaient si jeunes sur ce territoire, en fin de compte, si ancien.
Alors, ce supercontinent Gondwana, c'était quoi exactement? Alors, à l'époque, il y a 80 millions d'années, c'est ça?
Oui, tout à fait. Donc, c'était au niveau du Crétacé. Vous avez eu un début de ce démantèlement de ce grand supercontinent qui était déjà qu'on appelait la Pangée. Donc, c'est l'ensemble des continents de la planète qui était regroupée.
Mais ça, c'était encore plus longtemps.
Ça, c'est, oui,
c'était
déjà
200-250 millions d'années.
Depuis longtemps, tout à fait. Et qui a commencé à se départir en deux blocs, donc la Laurasie au nord et le Gondwana au sud. Et le Gondwana, c'est un peu le continent perdu de tout le monde, y compris des scientifiques. Voilà, exactement. Donc il y a des références un petit peu, des fois, presque mythologiques quand on parle du Gondwana. Et de ce fait, effectivement, on se pose beaucoup de questions à cause de ce qu'on appelle les reliques. Donc il y a effectivement des lignées très anciennes que l'on estime être d'origine du Gondwana, que l'on peut retrouver ça et là, dans donc, l'ensemble des territoires du sud de la planète, donc la partie sud, et notamment la Nouvelle-Calédonie.
Donc l'histoire, elle était très simple. L'histoire géologique de la Nouvelle-Calédonie, c'était justement cette terre du Gondwana datée de 80 millions d'années, c'est
oui,
ça?
Oui, probablement trop romantique, effectivement.
Voilà. Et là, badaboum, vous tombez sur cette blatte qui vient tout bouleverser.
Exactement. Et surtout que, bien entendu, quand on a commencé à faire ces recherches sur les blattes, donc, bien sûr, on s'est appuyé ensuite sur d'autres travaux, sur des grillons, sur des mollusques, sur les plantes, et on s'est aperçu que l'ensemble de la diversité de ces organismes avait une origine relativement récente. Comme s'il y avait eu quelque part, à un moment donné, une sorte de goulot d'étranglement et que tout était reparti il y a environ une trentaine de millions d'années. Et c'est là que les scientifiques, mes collègues, donc, ont commencé à travailler sur ce sujet, ont commencé à regarder la géologie. Enfin, il fallait quand même voir qu'est-ce que nous apportaient les autres sciences. Et la géologie commençait à dire, mais il y a eu des phénomènes particuliers, il est probable que les roches qui sont actuellement affleurantes en Nouvelle-Calédonie sont des roches qui se sont formées sous le plancher océanique. Donc comme elles n'ont pas pu remonter et sauter à travers les océans, c'est forcément le plancher lui-même de la Nouvelle-Calédonie qui s'est enfoncé sous le plancher océanique pour être recouvert de ces roches. Et le meilleur indicateur de cela, c'est simplement le nickel. Le nickel a pour origine le plancher océanique, justement. Et donc, le fait qu'on trouve du nickel maintenant en surface en Nouvelle-Calédonie...
C'est une terre rouge qu'on trouve en
Nouvelle-Calédonie. C'est une terre rouge, en partie, oui. Ouais. Eh bien, ce nickel est un indicateur géologique de cette histoire
Donc, vous avez rajeuni, la Nouvelle-Calédonie d'un coup, en fait, c'est ça que ça veut dire?
Eh bien, oui. On croyait avoir affaire à ce qu'on appelle une île écologique, donc une île qui s'est petit à petit détachée du continent et a dérivé avec ses formes biologiques.
C'est quoi? C'est un bout de l'Australie, d'ailleurs?
C'est un bout de l'Australie.
La Nouvelle-Calédonie, concrètement, c'est ça?
Tout à fait. Sauf qu'il a plongé plusieurs fois, peut-être même deux fois, dans l'océan et sous le manteau, donc... géologique de la Terre pour être repeuplée il y a 30 millions d'années.
Jean-Luc Fessard, une réaction.
Et est-ce que cette belle biodiversité que vous découvrez là-bas est menacée par le
nickel,
le changement climatique en cours ou pas?
Elle est menacée aussi par le nickel, d'ailleurs.
Oui, bien entendu. Le territoire fait face à un certain nombre de contraintes, des contraintes économiques avec l'exploitation du nickel et des contraintes, on va dire, plus liées à l'utilisation traditionnelle du territoire. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'habitants par rapport à la surface, mais il y a un développement, il y a un boom économique, effectivement, en Nouvelle-Calédonie. Il y a besoin de territoire, il y a besoin d'espace, il y a besoin de ressources aussi, et effectivement, il y a des soucis. Et le réchauffement climatique fait partie des soucis que l'on trouve en Nouvelle-Calédonie, bien sûr.
Laurence de Villers.
Moi, ce qui me frappe, c'est à vous écouter, alors vous allez dire que je vais replonger dans le romantisme, puisque vous parliez d'une vision romantique mais fausse. On a l'impression que vous êtes le Darwin pour la Nouvelle-Calédonie. Vous relancez la question sur l'origine des espèces. Je suis trop romantique ou...
Non, mais d'ailleurs, c'est pas une chose qui se fait facilement. C'est-à-dire que revenir sur l'histoire géologique comme ça d'une Terre.
C'est surprenant.
En rajeunissant de 50 millions d'années, quand même.
Ouais, c'est ça,
voilà,
c'est frappant.
Sachez que c'est pas simple parce que du fait de cette importance de ce territoire, ce que je vous signalais en début en vous disant que c'était quand même un des territoires les plus en vue, pour un des hotspots les plus importants de la biodiversité de notre planète, il est très regardé par une communauté scientifique internationale qui est vraiment très tatillonne à ce sujet. Et donc, dès qu'on modifie quelque chose, quand on modifie cette vision...
Et c'est pas rien.
Un petit peu, et qui n'est pas rien, voilà, parce que ça, c'est vraiment ce qu'on appelle un nouveau paradigme pour l'explication de la biodiversité sur un territoire, certes petit, mais quand même
et
important.
Et ça, c'est une blatte, elle toute seule, qui peut remettre en cause tout ça.
Oui, parce que ça a été, le travail initial, si vous voulez, ce qu'on appelle un travail fondateur. Mm-hmm. C'est le travail fondateur qui a permis, après, de se poser la question, mais tiens, allons voir d'autres modèles, comment ça se passe. Et la surprise, c'est de voir que dans tous les modèles qui ont été étudié de la même manière, on s'est aperçu qu'il y avait ce fameux goulot
d'étranglement.
D'étranglement, voilà. Ouais. Vers 30 millions d'années, un peu plus, 35, voilà. Et donc, ça veut dire qu'il y a une histoire commune de cette biodiversité. Et on a pu la corréler avec, on va dire, la nouvelle façon de voir la géologie du territoire.
Aline ?
Oui, je crois qu'il y a un message qui est très fort sur cette blatte et sur cette affaire. Et c'est qu'en fait, la science, elle se construit peut-être contre le romantisme ou avec une part de romantisme, mais en tout cas, elle se construit. Et on sait des choses, on en découvre d'autres et on abandonne les hypothèses précédentes. Et c'est vrai qu'à notre modeste niveau à The Conversation, c'est aussi ce qu'on essaye de faire passer, alors qu'on est un site grand public. Ça, les gens, ils peuvent peut-être voir comment les scientifiques travaillent.
Yves Lers.
Les géologues doivent être furieux. Parce que vous arrivez avec votre blatte et puis vous démolissez toutes leurs hypothèses.
Non, parce que ce sont les géologues qui d'abord ont commencé à redéfinir justement ce scénario, on va dire, géologique. Mais nous, on va dire, les biologistes, on n'avait pas regardé les travaux assez, de manière assez approfondie, ces travaux-là. Et donc, en fait, peut-être la leçon la plus importante, c'est ce qu'on appelle la pluridisciplinarité. C'est-à-dire qu'une science ne peut pas se suffire à elle-même et il faut absolument... ensemble.
C'est une belle leçon.
En tout cas, la conclusion de votre étude, c'est que la Nouvelle-Calédonie ne peut plus être une sorte d'arche de Noé datant justement du Gondwana, il y a 80 millions d'années, et que cette réalité biologique, elle est infiniment plus complexe. C'est ce qu'a révélé justement la découverte de cette blatte. Aline, on termine très vite en parlant aussi de partage de données avec The Conversation. Ça, c'est ce que vous avez inauguré aussi il n'y a pas longtemps.
Ben oui, c'est le printemps, donc The Conversation fait peau neuve, accueille les chercheurs du Muséum pour la biodiversité et se lance dans une aventure qui est tout à fait unique et inédite. Je le dis sans aucune forfanterie. Vous savez qu'on a donc des articles qui sont écrits par des chercheurs et co-construits avec les journalistes. Et ben on va faire exactement la même chose avec ce qu'on appelle aujourd'hui la data visualisation. C'est un mot un peu franglais. Hein. Avant, on parlait d'infographie. C'est-à-dire que nous allons faire des sujets avec des graphiques, avec des données apportées par les chercheurs ou signalées par les chercheurs que nous allons co-construire sur le site. Et on a commencé cette semaine avec, comme invité spécial, Hervé Lebras, le démographe, sur le thème de la France inégale. Et nous avons publié, on va publier en tout, une quasi 40 cartes sur les inégalités territoriales, classe sociale, âge. Et demain, donc, on va faire de la donnée, du partage de données sur The Conversation France.
Voilà, et c'est theconversation.com ou .fr, mais vous trouverez les deux.
theconversation.com/fr.
Allez, dans un instant, guérir la vie par la philosophie, la suite du Club de la Tête au Carré.
Elle vivait dans la forêt, un cabanon, comme elle disait, elle dormait. Quand elle voulait, ne travaillait jamais. Pareo nouait dans le dos des fruits, des fleurs et des oiseaux, le goût du sel sur la peau. Elle était belle, j'étais beau. Sous un baldaquin de tulle, une bougie, le clair de lune, nos deux corps dans une bulle. Le cœur et la fortune. On ne parlait pas d'amour. L'amour, c'est quoi? On ne parlait jamais d'amour. Le grand amour, ça n'existait pas. Elle fumait, je l'embrassais, je cuisinais, elle m'enlaçait, elle dansait. Je chantais en anglais, en javanais. Nu, sous mon tablier, je revivais. Abandonné sous les baisers parfumés. On ne parlait pas d'amour. L'amour, c'est quoi? On ne parlait jamais d'amour. Le grand amour, ça n'existait pas. C'était l'amour, je m'y connais, jusqu'à ce jour de fin juillet. Elle souriait, mais je devinais, le vent avait tourné. Affolé par l'épouvantail de quelle erreur monumentale. L'amour, le vrai, le beau, c'était barré au galop.
Le grand amour, Albin de la Simone, à l'instant sur France Inter. La suite de ce club avec notre philosophe Laurence Devillers. Vous êtes professeur de philosophie, spécialiste, et vous enseignez à Descartes et vous publiez donc aux presses universitaires de France « Guérir la vie par la philosophie ». De la blatte à la philo, vous me disiez comment faire la transition entre les deux. Ben, je sais pas, est-ce qu'on peut parler désillusion, par exemple, voilà, une croyance qui s'effondre, enfin une croyance, une connaissance qui s'effondre. Voilà, on peut peut-être guérir aussi grâce à la philosophie de cette désillusion, peut-être.
Absolument.
C'est ce que vous expliquez.
Vous avez raison. C'est à la fois une entreprise de démolition, des convictions trop faciles, mm-hmm. des consolations un peu rapides.
Ouais.
Et donc, il y a effectivement ce côté très inconfortable, je pense, de la philosophie et qu'il faut conserver, qui est la désillusion.
Voilà. Et les scientifiques qui voient leur dogme s'effondrer peuvent avoir comme aide, justement, peut-être la philosophie pour aller mieux, puisque vous dites, vous nous le rappeliez tout à l'heure, c'est une médecine, la philosophie.
Oui, et c'est une des... Je le disais, la philosophie, c'est penser quasi à son origine, enfin, à son origine comme médecine. Donc, en réalité, j'ai repris quelque chose de très, très ancien. Mmh. Socrate disait, par exemple, je dis de mémoire dans le Gorgias, il le dit avec toute l'ironie de Socrate, mais c'est quelque chose de très philosophique et ça fait partie de la thérapie, cette ironie. Il disait, je serai jugé comme un médecin qu'un cuisinier accuserait devant un tribunal d'enfants. Mmh. Donc évidemment, il y a beaucoup d'ironie pour dire que les gens sont pas prêts à entendre de la philosophie, mais ils se définissent, ça va sans dire, comme un médecin.
Mais alors, on peut tout soigner ou pas avec la philosophie, tous les maux physiques et psychiques, ou surtout psychiques?
Alors, spontanément, effectivement, on s'imaginerait, oui, la philosophie médecine, mais médecine de l'âme.
Oui.
En tout cas, de quelque chose qu'on ne voit pas.
Ouais.
Alors, il y a des scientifiques à côté de moi qui me diront, on n'a toujours pas prouvé l'existence de l'âme ou son absence. Mais en réalité, j'ai voulu tordre le bâton dans l'autre sens et commencer le livre par les mots du corps.
Oui.
Parce que ça me semble intéressant justement de pas cantonner, d'assigner la philosophie à résidence, mais dans le lointain, l'invisible, le très théorique, et s'imaginer que du coup, elle a pas grand-chose à dire sur ce qui fait le quotidien. Et la première chose, enfin le parmi les premiers mots, il y a... la tête que j'ai, enfin, on sait pas finalement, ou très peu, en philosophie, donc je suis allée le débusquer, ce que ça fait, non pas d'être Descartes qui dit « je pense donc je suis », mais j'ai 40, à l'époque il avait 45 ans, un petit peu plus, je suis pas très grand, je suis brun, on a très peu ça chez les philosophes, et ça me semblait intéressant de montrer qu'au contraire, la philosophie va dans ses contrées très concrètes, très quotidiennes.
Avec la lourdeur ou la légèreté du corps, au fond.
Lourdeur ou légèreté du corps. La beauté, c'est une forme de légèreté. C'est le corps qui en devient, pas abstrait, mais en tout cas avec la beauté qui devient plus proche de l'âme. Et en réalité, il me semble qu'on passe notre temps à essayer d'alléger cette lourdeur de l'âme, pardon, quel lapsus de métaphysicien, la lourdeur du corps, de la chair, par la gestuelle, par le langage, par le maquillage, etc. Et c'est pour ça que je commence par cette expérience que décrit Derrida, qui est très surprenante, mais je pense qu'il a parfaitement raison. C'est tellement rare d'être en face à face avec notre corps, enfin c'est cette contrainte absolue qui est d'avoir tel physique et de l'avoir pour très longtemps, même si on peut l'aménager, hein, on peut améliorer, etc. Et il dit que l'expérience où il a été face à ce qu'il est concrètement, c'est face à son chat. Alors lui, il en ajoute, hein, c'est Derrida, il ajoute qu'il est nu devant son chat. Mais je pense qu'on n'a pas besoin d'être nu. Il y a une forme de nudité quand tout d'un coup on est saisi sans tout ce qui habille notre corps, la gestuelle, ce qu'on dit, la parole, etc. Mmh. Oui, alors, c'est une expérience troublante.
Et vous parlez beaucoup de la solitude primordiale aussi, hein, ouais. Parce que l'existence et le réel sont éprouvants, et il y a avant tout cette solitude primordiale qui nous anime tous. Hein.
Vous m'avez décrypté. Oui, vous êtes allé au cœur de ce qui me semble fondamental. Il y a comme un cœur de la philosophie pour moi, c'est l'idée que le réel ne va pas de soi. Il y a une épreuve. Le réel est une épreuve et pas seulement dans les épreuves. Le réel en tant que tel qui est muet, indifférent, il est massivement là, il est ce qu'il est. Le réel, c'est l'ordre du c'est comme ça, hein, c'est voilà, c'est comme ça, c'est le réel. Il peut aussi bien exaucer mes vœux que broyer mes envies, me frustrer que me rendre heureux. Donc l'épreuve est un réel et le réel est une épreuve et l'épreuve est réelle. Et du coup, la vie, je le dis, la vie ne va pas de soi. Enfin, c'est pas un sport de glisse.
Donc oui, c'est pas un sport de glisse et c'est un exercice de lucidité avant tout. Et c'est absolument pour ça que la philosophie peut nous aider à regarder la vérité en face. Au fond, c'est ça
absolument
aussi.
Absolument. La première épreuve. Alors vous me direz, il y a beaucoup d'épreuves, mais je pense que les remèdes ne sont pas efficaces si on n'en passe pas par cette première phase de lucidité. Donc effectivement, la philosophie va nous démunir, nous ôter ce qui pourrait être des remparts, mais qu'en réalité, ils ne tiennent pas. Donc la désillusion a du bon parce qu'elle permet de voir que ce à quoi on tenait comme rempart ne tient pas. Ben voilà, faut aller chercher les vrais remèdes.
Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure un petit peu avec la science, Romain Garouste. Approchez-vous du micro.
Est-ce qu'en fait la philosophie n'est pas la mère de la psychologie?
Ah, alors là, grande question.
Et de la psychiatrie et de la psychanalyse.
Alors, elle est la mère de tout, qu'on soit clair. Ça a commencé avec la philosophie. Je le dis de façon un peu dogmatique, mais historiquement, c'est le cas. Donc, la philosophie a été la première interrogation de l'homme sur cette épreuve du réel, cette difficulté de la vie, et du coup, c'est la mère du droit, de la physique, de la psychologie. Mais ce qui m'a intéressée, en réactivant cette définition ancienne de la philosophie, c'est précisément de ne pas faire de psychologie. Alors, c'est pas de faire une concurrence permanente en disant la psychologie dit ça, la philosophie dit le contraire ou dit pareil, mais je pense que le tout psychologique peut nous appauvrir. Et que, justement, la philosophie, en restant ce qu'elle est, a des choses à dire qui me semblent pertinentes, solides et thérapeutiques.
Justement, voilà. Alors, quelques exemples concrets, précisément par rapport à ce que vous nous racontez, parce que vous dites aussi, évidemment, il faut vivre toute sa vie avec cette idée de mort. La vieillesse, d'ailleurs, c'est une façon aussi, quand même, de mourir de façon insidieuse, un petit peu, chaque jour. Et alors, vous proposez le remède de la cure de la natalité. Donc ça, c'est une bonne idée, effectivement. C'est l'idée inaugurer tous les jours des commencements, en fait, c'est ça. Hein.
Oui. Alors, pour ne pas donner l'impression, justement, que je suis trop dogmatique, j'ajoute juste que j'ai soin aussi de montrer qu'il y a eu des solutions philosophiques, mais qui, à mon sens, ne marchent pas. Donc, il y a des échecs thérapeutiques en philosophie. Le plus flagrant, c'est la leçon épicurienne qui nous dit que la mort n'est rien pour nous. C'est faux. Elle est précisément tout le temps quelque chose pour nous. La vieillesse, il y a peu de philosophes hein, de la vieillesse. Les grands, c'est Simone de Beauvoir et Montaigne. Et Simone de Beauvoir dit que quand elle se regarde tout d'un coup avec ce visage vieilli, c'est une vérole qui guérira jamais. Donc effectivement, moi, j'ai abondé dans cette radicalité en disant que l'expérience de mort qu'on fait, alors c'est toujours la mort des autres, donc c'est le deuil, et c'est la vieillesse. Vous le disiez, c'est petit à petit cette érosion, enfin cette présence de la mort dans la vie. Et la cure de natalité, qui est une des thèses qui me tiennent le plus à cœur. Je la trouve vraiment efficace. Enfin, vous me direz, mais c'est l'idée, très modestement, hein, c'est pas du tout une leçon d'héroïsme, c'est l'idée de cultiver en soi la capacité à inaugurer des commencements. Parce qu'après tout, la plus grande des libertés, c'est la liberté de commencer quelque chose.
Vous reprenez Hannah Arendt, d'ailleurs.
Et c'est Hannah Arendt. Hein, c'est une grande thèse d'Hannah Arendt. C'est cette idée que même la vie la plus figée, la plus prise dans les glaces, à cette possibilité, encore une fois, humble, modeste, hein, je suis pas en train de dire il faut révolutionner sa vie, mais de commencer quelque chose.
Faire primer la natalité justement sur l'inertie. Hein,
absolument. Ça, c'est... Et elle critique évidemment une grande thèse de Heidegger, que l'homme est un être pour la mort, et elle montre que l'homme est un être pour la naissance. Mmh. Il faut avoir des natalités le plus souvent possible.
Yves Lers.
Si on commence tous les jours quelque chose, on le finit quand?
Alors la liberté, c'est aussi de finir. C'est
le aussi scientifique finir. Pragmatique.
Et il y a une solution. Je parle de la théorie des habitudes brèves de Nietzsche, qui montre que ce qui épaissit et alourdit la vie, c'est d'avoir des habitudes qui durent, mais ce qui aère et donne l'impression d'un déménagement un peu de frais, c'est d'avoir des habitudes, mais courtes, qu'on quitte. La liberté, c'est aussi finir.
Ouais. Laurence de Villers, alors il y a quelque chose dont on parle beaucoup aujourd'hui aussi avec la psychologie positive, le bouddhisme, la méditation, c'est le bonheur au présent. Hein, c'est vivre le présent, l'instant présent. Hein, oublier le passé, arrêter d'anticiper sur le futur. Et alors là, vous dites, voilà, vous reprenez Nietzsche d'ailleurs, qui au sujet du présent dit que c'est un bonheur de chèvre.
C'est un bonheur de chèvre.
Ouais.
Alors au sens strict, hein, alors c'est toujours agréable de pouvoir dire du mal des autres avec Nietzsche. Parce que c'est bien fait, et puis voilà, ça permet de le faire à bon compte, c'est efficace. Nietzsche dit, ce bonheur qu'on nous propose, où on vivrait dans l'instant présent, c'est déshumanisant, hein, parce que si on va jusqu'au bout, un bonheur de chèvre, enfin d'animal de troupeau, c'est ne plus être humain. Donc c'est un bonheur qui n'est pas humain, parce que l'homme est ainsi fait, qu'il a en soi, dans son présent, son passé, il arrive avec toute son histoire, et il est plein d'espoir. Alors, c'est difficile l'espoir, hein, c'est une matière inflammable, ça ne va pas sans crainte, mais il dit nous amputer de cette dimension d'avenir, de notre passé, de la nostalgie, de l'espoir, c'est faire de nous un animal de troupeau, attaché à son piquet, au moment présent, et qui va en fait peut-être brouter de l'herbe, mais ça reste un bonheur de troupeau.
Ouais. Alors, on va terminer avec un exemple très très rapide, hein, contre le chagrin d'amour, hein, c'est le remède de la Vénus vagabonde. Il faut aimer un autre, la passion amoureuse tend vers le cannibalisme. Tiens, on en parlait justement tout à l'heure. On laissera le soin au lecteur, hein, de découvrir tous ces exemples que vous citez pour guérir la vie. L'expression, elle-même d'ailleurs, vous y revenez, hein, dans le livre. Guérir la vie par la philosophie, c'est aux presses universitaires de France et c'est un ouvrage que vous signez Laurence de Villers. On se retrouve dans un instant pour parler climat et cuisine. Violet was tickling my fancy, gives out just the right amount of soul. I wonder if it makes me sound too old. Decided that a Stella or a Candy seems as if I'm spinning down a pole. Swept them over to the stack of notes. Seen a bunch of times before. An inch away from settling on cold gold. Shame that she's that girl you used to know. Loved it, but we had to let it go.
front of a casino. Push me down another rabbit hole. Touch me like I'm gonna turn to gold. She's almost like a million other people that you'll never really get to know. And it feels as if she's swallowing me.
Mirage avec Alexandra Sailor.
Salut.
Le club.
Open bar toute la nuit, ambiance de folie, toute sortie définitive.
Sur France Inter.
Se laisse réfléchir.
Nos derniers invités dans le club, Jean-Luc Fessard, Yves Lerce, vous êtes tous les deux journalistes spécialisés dans l'environnement et vous publiez « Ça chauffe dans nos assiettes, des recettes pour sauver le climat » chez Buchet-Chastel avec, entre autres, à la fin, donc, un cahier, 18 recettes. C'est donc dans nos assiettes que la lutte contre le réchauffement climatique peut commencer, a priori, Jean-Luc Fessard ?
Absolument.
Ouais.
Et en fait, moi, je me définis comme un activiste du climat, à savoir que j'ai coécrit avec Yves ce livre parce que c'est le reflet d'une expérience qu'on mène actuellement de mobilisation dans une association qui s'appelle Bon pour le Climat.
Ouais.
Et vous avez effectivement dans le livre 18 recettes qui ont été écrites par des gens qui font partie de notre association,
mmh,
avec également une préface faite par Olivier Rollinger. Ces chefs, on leur a pas demandé de faire des recettes n'importe comment, c'est-à-dire il y a 18 recettes. Pourquoi ? C'est qu'en fait, même une saison, on dit qu'il faut respecter la saisonnalité, mais même une saison, c'est un peu long, donc c'est tous les deux mois, avec une entrée, un plat et un dessert, fait par des chefs qui ont essayé de faire des recettes proches de celles qu'on peut faire à la maison.
À bas coût carbone, hein.
Des chefs
et
convaincus.
Voilà.
Des chefs convaincus,
à bas coût carbone, parce que justement, c'est fait en respectant la saison, en respectant le local, et si possible, en privilégiant le végétal.
Alors justement, Marine nous dit par mail sur franceinter.fr, vous disiez tout à l'heure que les lasagnes aux aubergines ont un bon bilan carbone. Mes cheveux sont debout, dit Marine. On ne trouve pas d'aubergines françaises ou locales avant l'été. Elle a raison.
Ah, ben oui, mais la recette doit être mise sur la période de l'été, parce que c'est à cette période-là qu'on les trouve. Effectivement.
Yves Lerce.
Sur les recettes, on a décidé de mettre des recettes à la fin justement pour montrer que tout n'est pas très difficile. Mais l'idée était quand même d'abord de démontrer ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que l'alimentation représente à peu près 30%, 27% de notre bilan carbone global.
Ouais, énorme.
Plus énorme que le bâtiment et plus que les transports.
Absolument.
Or, on parle beaucoup du bâtiment, on parle beaucoup des transports. J'ai moi-même fait, quand j'étais à l'ADEME, des campagnes « Faisons vite, ça chauffe ». C'était sur le bâtiment, c'était sur notre façon de vivre. Et l'alimentation, maintenant, il y en a qui s'y mettent, heureusement. Il y a des ONG qui ont travaillé là-dessus. Mais
on a un levier formidable là-dessus pour agir. Hein. Justement, en essayant de cuisiner autrement. Alors,
à condition que ce soit bon. Hein. C'est pour ça qu'on a pris, nous, des chefs. Parce que, et on a même une fierté. C'est que l'un de nos adhérents, qui s'appelle Bertrand Grebeau, vient d'être classé parmi les 50 meilleurs restaurants au monde. Et il a le prix du développement restaurant le plus durable.
Il sera dans la deuxième édition.
Alors, ben oui, et on vous le souhaite. Donc, il y a un petit calendrier des fruits frais et des légumes frais. Ça, c'est très pratique. Donc, je regarde les aubergines. C'est juin, juillet, août, septembre.
Voilà.
Et puis, on a aussi les émissions des produits de saison et locaux. Donc, l'équivalent en carbone. Pour savoir exactement à quoi correspondent les produits que nous utilisons.
Oui, parce qu'on a un éco-calculateur qui permet à chacun d'aller calculer le poids carbone de ses recettes.
Alors c'est ça, comment on fait alors ? C'est quoi
très simple,
de cet éco-calculateur ?
On a un site qui est sur Internet qui permet donc d'aller calculer le poids carbone de ses recettes.
Mm-hmm.
C'est un site plutôt destiné pour l'instant professionnel, mais Shafi Kazal d'Eco2 Initiative qui nous a créé cet éco-calculateur lance là dans les semaines qui viennent une application qui s'appelle Étiquetable, et qui va permettre à tout un chacun d'aller calculer le poids carbone de ses recettes, mais aussi la quantité de calories, l'origine locale, énormément de paramètres, les allergènes, etc.
Ouais. Alors justement,
la valeur nutritionnelle, parce que l'idée aussi, c'est d'arriver à... Il ne faut pas juste être bon pour le climat, c'est ça. Il faut qu'on soit bon sur le plan nutritionnel, il faut qu'on se soit équilibré. Et c'est cette recherche d'équilibre.
C'est quoi l'équilibre nutritionnel au fond ?
L'équilibre, c'est d'arriver. Ce qui m'a aidé moi à la fin, c'est de tomber sur une dame, si j'ose dire, qui s'appelle Nicole Darmon, qui est à l'INRA et qui est nutritionniste et épidémio. Et elle a fait une étude pendant 4 ans avec ses doctorants, etc. Elle est à Marseille et elle travaille sur les quartiers nord, sur les régions où les quartiers pauvres où il faut qu'ils s'alimentent autrement. Donc c'était aussi une bonne solution. Et elle a fait des expériences avec des étapes. Et là, une étape où elle arrive à une réduction de 30% d'émissions de gaz à effet de serre, tout en gardant une valeur nutritionnelle correcte. Parce que sinon, c'est pas la peine, quoi.
Ouais. Alors, valeur nutritionnelle, déjà, nous, on préconise de mettre moins de légumes. Moins de viande, pardon.
Vous n'avez rien entendu.
De favoriser les légumes. Mais quand on dit légumes, c'est un peu réducteur parce qu'en fait, il s'agit aussi des légumineuses. Ouais. C'est-à-dire les protéines qu'on n'a pas dans la viande, on va les trouver dans les légumes. Ça permet d'avoir un équilibre aussi à ce niveau-là.
Ouais. Alors, justement, le bilan carbone, donc ça, c'est intéressant. Moi, j'étais ravi de voir qu'on pouvait faire un cheesecake en respectant quand même l'environnement et le réchauffement climatique. Sauf que le cheesecake, c'est bien, mais il y a quand même beaucoup de lait. Et l'empreinte carbone, elle n'est pas négligeable.
Exactement. Alors, je disais tout à l'heure, mais effectivement, la chef qui nous a fait cette recette, elle vient de Normandie, donc on a respecté son caractère local. Mais c'est vrai que c'est une des recettes qui, au niveau poids carbone, est un peu limite, mais on l'a laissé parce que c'est trop bon son cheesecake.
Mais il est limite en calories aussi, de toute façon, non ? Vaut mieux éviter le cheesecake.
Non, parce que dans 7 pour 4, elle n'est pas énorme.
Il ne faut pas en manger tous les jours, Laurence de Villers. Ouais. Voilà, une petite part de temps en temps. Romain Garouste.
Oui, en fait, et les insectes, vous savez qu'actuellement, on parle beaucoup d'insectes dans nos assiettes, si j'ose dire.
Alors, je vais être catégorique
par rapport aux insectes. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport aux
insectes ? On ne fera pas manger des insectes.
Non mais vous.
Par contre,
les insectes vont être très utiles pour alimenter, par exemple, les poissons carnivores.
Pour faire de l'élevage
de poissons.
Il y a
une société qui s'appelle Insectes, justement, qui met ça en avant. Et donc, nourrir des poissons carnivores, actuellement, on les nourrit avec ce qu'on appelle la pêche minotière, ce qui est un désastre absolu. Donc, on va pouvoir les nourrir avec des insectes, ça, c'est une très bonne idée.
Ouais, mais l'apport en protéines, il est non négligeable, quand même, autour des insectes.
Il y a 2 milliards d'humains, il y a 2 milliards d'humains qui mangent des insectes dans le monde. Mais vous en avez mangé déjà ?
Oui, ça m'est arrivé une fois.
Aussi enrobé, on en est reçu à la rédaction.
Et tout, c'est parce qu'on n'a pas l'habitude. Culturellement, on n'a pas l'habitude.
Oui, mais on mange des crevettes. On mange des crevettes, on mange des bestioles comme ça. C'est ça. Mais on arrive avec les légumineuses à compenser. De ce côté-là, c'est bon. Mais il n'y a pas de raison, effectivement, qu'on puisse pas manger des insectes. Mais il n'y a pas que les insectes. Il y a plein d'autres solutions que les insectes et qui sont profitables pour tout le monde.
Qu'est-ce qui pèse le plus lourd au fond aujourd'hui dans les émissions de gaz à effet de serre autour de cette notion de la cuisine ? C'est la viande ?
C'est l'élevage, oui.
L'élevage, les pesticides.
C'est pour ça que moi, j'ai arrêté de manger des mammifères. Par solidarité d'espèce, je préfère être proche des mammifères et arrêter de manger. Par contre, je continue à manger de la volaille parce que je pense que les descendants des dinosaures...
Même la salaire ça...
Pardon. il est discriminant.
J'ai parlé de moi, mais évidemment, nos grands chefs, je leur dis... Vous appelez l'entrecôte, vous appelez l'andouillette, vous n'allez surtout pas retirer ça de votre carte. Parce que l'anomalie en France, c'est pas qu'il y ait de la viande dans les restaurants, c'est qu'il n'y a pas d'offre végétale. Et donc moi, je pousse pour qu'ils aient à côté de la viande une offre végétale.
Allez, Aline Richard, pour terminer, très vite.
Simplement, c'est vrai que c'est important de bien se nourrir pour le climat. Et c'est tout aussi important, et je pense pas du tout contradictoire, de bien se nourrir pour nous-mêmes. Parce que, en fait, les gens qui ont des pathologies alimentaires, ça coûte très cher aux collectivités. Et c'est très mauvais aussi pour le climat. Donc, en fait, je pense qu'il y a une recette assez sympa sur le houmous à base de lentilles dans votre bouquin. Ouais. Je l'ai repéré tout de suite. Parce que j'adore ça, et ça c'est vraiment un très bon
à base de pois chiches.
De pois cassés, oui, parce que c'est local, et je pense qu'on peut faire des tas de trucs super sympas.
Mais il y a aussi
un
filet de canette céleri façon risotto.
Absolument.
On peut trouver des recettes.
L'idée c'est d'avoir 70% de légumes, de végétal pardon, et 30%. On est dans une démarche de progrès. Il faut pas bousculer les gens. Ils connaissent pas du tout ce sujet-là. Donc on y va doucement et maintenant il faut quand même se bouger.
Eh ben ça s'appelle « Ça chauffe dans nos assiettes » et des recettes pour sauver le climat avec un guide à la fois pratique et qui fait réfléchir puisque la première partie est longuement consacrée à une réflexion autour de nos habitudes. C'est chez Bûcher, Chastel, Yvelers et Jean-Luc Fessard. Merci beaucoup à tous les cinq.
Merci à vous.
Passez un très bon week-end. Bonnes vacances à tous. Lundi, c'est Daniel Fievé que vous retrouverez aux commandes de la Tête au Carré.